RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Aux États-Unis, l'auteur de l'attaque à la Nouvelle-Orléans a agi seul, selon les enquêteurs du FBI, et qui évoque un acte terroriste. L'autorité palestinienne suspend la diffusion d'Al Jazeera dans les territoires palestiniens. Elle accuse la chaîne qatarienne d'incitation à la sédition et d'ingérence. De son côté, Al Jazeera réagit, dénonçant une tentative de masquer la réalité. En France, l'entrée en vigueur de mesures pour limiter la circulation des voitures considérées comme polluantes dans les grandes villes. Et puis la plus ancienne championne olympique au monde est décédée, la gymnaste hongroise Agnès Kelletti s'est éteinte à l'âge de 103 ans. On revient sur son parcours à la fin de cette édition. Aux États-Unis, le FBI ne voit aucun lien entre l'attaque à la Nouvelle-Orléans et l'explosion d'un Cybertruck à Las Vegas, attaque que les enquêteurs traitent comme un acte terroriste en Louisiane. 15 personnes sont décédées, dont le principal suspect, Shamsadine Jabbar, un citoyen américain né au Texas, âgé de 42 ans. L'ancien militaire était actuellement agent immobilier, père de 3 enfants, 2 fois divorcé. Christopher Raya, un haut responsable du FBI, a donné un peu plus de détails ce jeudi lors d'une conférence de presse sur cet homme. On l'écoute.
Nous ne pensons pas à ce stade que quelqu'un d'autre soit impliqué dans cette attaque, à l'exception de Shamsadine Jabbar. Cinq vidéos ont été postées sur le compte Facebook de Jabbar, datées de 1h29 et la dernière de 3h02. Dans la première vidéo, Jabbar explique avoir prévu au départ de s'en prendre à sa famille et ses amis, mais qu'il s'inquiétait que les titres des journaux ne se concentreraient pas sur, je cite, « la guerre entre les fidèles et les infidèles ». Fin de citation. De plus, il a déclaré avoir rejoint l'EI avant l'été. Il n'y a pas de lien avéré entre l'attaque ici à la Nouvelle-Orléans et celle de Las Vegas. Encore une fois, je commencerai par ce que j'ai dit au début, à savoir qu'il est encore très tôt pour tirer des conclusions dans une enquête comme celle-ci.
Christopher Raya, haut responsable du FBI, lors d'une conférence de presse ce jeudi. Aujourd'hui, le French Quarter est resté bouclé par la police à la Nouvelle-Orléans. Dans la rue où a eu lieu l'attaque, les bars et les restaurants sont restés fermés. L'autorité palestinienne suspend la diffusion et les activités d'Al Jazeera dans les territoires palestiniens. Très populaire dans le monde arabe, la chaîne de télévision qatarienne est la plus regardée par les Palestiniens. L'autorité l'accuse de désinformer, d'inciter à la sédition et d'ingérence dans ses affaires. Les explications de Nicolas Falaise.
Le point de départ, c'est la situation dans la ville palestinienne de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie. Depuis plusieurs semaines, les forces de sécurité de l'autorité palestinienne y mènent des opérations contre des groupes armés liés au Hamas ou au djihad islamique palestinien. Ces affrontements ont fait des dizaines de morts et c'est la couverture de ces événements par Al Jazeera qui a provoqué la colère de l'autorité palestinienne, qui a donc décidé de suspendre la diffusion et les activités de la chaîne. Cette dernière proteste, elle dénonce une tentative de masquer la réalité en Cisjordanie occupée. Elle parle même d'une campagne d'intimidation visant ses journalistes. En toile de fond, il y a l'affaiblissement et la perte de crédibilité de l'autorité palestinienne, régulièrement critiquée pour mener des opérations sécuritaires en fonction des intérêts israéliens, comme à Jenin. En mai dernier, c'est Israël qui interdisait la diffusion d'Al Jazeera et ordonnait la fermeture du bureau de la chaîne qatarienne.
Les Reporters sans frontières, tout comme l'ONU, ont réclamé hier l'annulation de la décision de l'autorité palestinienne de suspendre cette chaîne. En Syrie, les forces de sécurité ont lancé ce jeudi une opération de ratissage à Homs, dans le centre du pays. Ils ciblent des quartiers de la minorité alaouite, dont est issu le clan Assad. Les nouvelles autorités indiquent que cette opération vise des criminels de guerre qui ont refusé de rendre les armes. Des membres des milices Assad se trouveraient encore encore dans certaines parties de la ville, toujours selon les autorités qui ont imposé un couvre-feu. Toujours concernant la Syrie, le ministre des Affaires étrangères syrien est arrivé en Arabie Saoudite. Première tournée à l'étranger du chef de la diplomatie syrienne depuis sa nomination après la chute de Bachar al-Assad. À son arrivée à Riyad, il a dit vouloir ouvrir une nouvelle page dans les relations syro-saoudiennes. RFI. En Espagne, le nombre de migrants arrivés clandestinement sur les îles Canaries a atteint un niveau historique en 2024, une hausse de plus de 17% en un an selon les données publiées par le ministère de l'Intérieur. Les îles Canaries qui restent la principale porte d'entrée des migrants clandestins en Europe. Mi-novembre, le gouvernement de gauche de Pedro Sanchez a adopté une réforme visant à faciliter la régularisation de dizaines de milliers de clandestins en Espagne. Une mesure à contre-courant des autres pays européens marqués par une poussée de l'extrême droite. En France, la chef de file du Rassemblement national se rendra à Mayotte de dimanche à mardi, trois semaines après le passage du cyclone Chido. Dans une vidéo, la chef de file de l'extrême droite dit que son parti va tout faire pour accélérer l'aide dont la population a besoin. Et demain, vendredi, le projet de loi d'urgence pour Mayotte, qui devait être présenté en Conseil des ministres, a été reporté. Présentation décalée d'une semaine. Il s'agit selon l'exécutif d'avoir plus de temps pour continuer la concertation avec les élus locaux. En France, parmi les changements qu'apporte la nouvelle année, les voitures considérées comme faisant partie des plus polluantes ne peuvent plus circuler librement depuis hier dans le Grand Paris, à Lyon, Grenoble, Montpellier ou encore Strasbourg. L'interdiction concerne les véhicules dotés d'une vignette critère 3, c'est-à-dire les voitures diesel immatriculées avant 2011 et celles essence immatriculées avant 2006. Des dérogations existent pour certaines professions, les soignants, les travailleurs de nuit ou encore certains commerçants. Mais pour Tony Renucci, le président de l'association Respire, qui veille à améliorer la qualité de l'air, il faut que la mesure soit applicable, ce qui sera pour l'instant difficilement le cas. On l'écoute.
Ce qui rend l'application difficile, c'est l'absence de contrôle. On sait que la vidéo-verbalisation ne sera pas déployée avant 2026. C'est sûr que les gens n'appliqueront pas la mesure. Après, j'entends aussi le fait que ça peut être difficile à appliquer, notamment socialement, et c'est pour ça que je pense que ça aurait été intéressant d'envisager une révision des vignettes critères en intégrant le poids des véhicules. Plus le véhicule est lourd, plus il consomme, plus il émet aussi de CO2. Ça aurait peut-être permis de lâcher un peu plus de lest envers des ménages qui sont plus précaires, qui ont notamment des critères 3, qui parfois peuvent être plus légers, donc qui auraient pu avoir un peu plus de temps de circulation, et surtout de mettre un coup d'arrêt à cette tendance qu'ont aussi les constructeurs de sortir des véhicules de plus en plus lourds, comme les SUV, qui, c'est vrai, aujourd'hui, arrive même à être critère 1, alors qu'il pose aussi d'autres problèmes de nuisance et de pollution.
Par ailleurs, il existe des dérogations pour un certain nombre de véhicules. Est-ce que ça pourrait minimiser l'impact du critère ?
Ce qui va minimiser l'impact, c'est la décision contre-productive du gouvernement d'avoir baissé les aides pour l'acquisition d'un véhicule moins émetteur. Ça, c'est contre-productif.
Des propos recueillis par Marie Leveugle. Elle allait souffler ses 104 bougies dans quelques jours. La plus ancienne championne olympique du monde, la gymnaste hongroise Agnès Keleti, s'est éteinte aujourd'hui à Budapest. Elle avait été hospitalisée à cause d'une pneumonie. La championne avait échappé aux déportations et raflé 5 médailles d'or olympiques. Retour sur ce parcours exceptionnel avec Florence Labruyère.
Agnès Keleti a eu une vie peu commune. Née en 1921, la gymnaste entre dans l'équipe nationale de Hongrie en 1939, mais elle est exclue des compétitions sportives en raison de ses origines juives. En 1944, son père et plusieurs membres de sa famille sont exterminés à Auschwitz. Mais Agnès Keleti échappe de peu à la déportation. Elle obtient de faux documents en échange de tous ses biens. Elle se cache à la campagne où elle travaille comme domestique et s'entraîne en secret. Après la guerre, le régime communiste s'installe en Hongrie. Agnès Keleti reprend sa carrière de championne de gymnastique. Aux Jeux olympiques d'Helsinki en 1952, elle rafle 5 médailles d'or, puis une 6e aux Jeux de Melbourne en 1956. Au total, cette femme de grande taille, au sourire légendaire, a remporté 10 médailles olympiques. « J'ai fait du sport, non pas parce que cela me faisait du bien, mais pour voir le monde », disait-elle. Comme beaucoup d'athlètes hongrois, Agnès Keleti n'était pas rentrée en Hongrie après les Jeux olympiques de Melbourne en 1956. Elle s'était installée en Israël, où elle avait entraîné l'équipe de gymnastique, avant de revenir définitivement en Hongrie en 2015. Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Et puis un mot de voile, le duel se poursuit en tête du Vendée Globe entre Charlie Dalin et Johan Richaume. Les deux marins sont au large des côtes brésiliennes. Ils espèrent bénéficier des alizés pour accélérer vers l'équateur.